France Culture. Les midis de culture. Élise Lépine.
Bonjour et bienvenue sur un os. C'est le titre de la grande exposition dédiée à l'artiste Françoise Petrovitch au MoCo à Montpellier jusqu'au 2 novembre 2025. Elle présente aussi au musée Marmottan Monet à Paris une exposition intitulée Morizo Petrovitch Soleil. Dessins, peintures, sculptures en céramique ou en bronze, animaux, enfants, adolescents et paysages évoquant des temps reculés, notre ère contemporaine ou parfois un futur dystopique, ces œuvres nous entraînent dans l'intime, la transparence et le silence. Mais ne néglige pas la poésie, le merveilleux, parfois l'inquiétude ou la violence. Françoise Petrovitch ne nous impose rien, elle nous guide avec délicatesse dans son univers, entre couleurs et transparence. Un sourire traverse son œuvre, accompagné de la grâce de son imaginaire, jamais invasif et toujours ouvert. En seconde partie d'émission, je recevrai l'artiste plasticienne Aline Bouvy pour l'exposition Hot Flashes au Casino Forum d'Art Contemporain à Luxembourg. Bonjour Françoise Petrovitch.
Bonjour.
Vous avez expliqué ne pas raconter d'histoire à travers vos œuvres. Effectivement, elles ne déploient pas de narratif, elles ne nous prennent pas forcément par la main. Mais est-ce que vous, Françoise Petrovitch, quand vous travaillez, quand vous pensez une œuvre et quand vous la réalisez, vous vous racontez une histoire ?
Non, je crois que jamais je me raconte d'histoire. Je suis directement plongée, je suis au plus près de la plasticité et j'ai pas nécessité de raconter.
Est-ce que vous travaillez beaucoup alors par association d'idées, Françoise Petrovitch, les vôtres ou celles du public ou ce que vous allez provoquer chez les spectateurs et spectatrices?
Bah, c'est plus des associations d'idées que je peux avoir dans des notes que j'aurais prises, des choses que j'aurais vues, des photos que j'aurais réalisées. Des pensées fugitives qui peuvent arriver comme ça et télescoper et finalement fabriquer des choses, des ressorts. Mais après, je pense pas au public, non, jamais, quand je travaille.
Vous vous interrogez pas sur les impressions que vous allez faire ou peut-être dont votre œuvre va être perçue?
Non, je suis dedans. C'est deux temps très différents entre faire et puis après les choses sont reçues lors d'expositions, mais il y a pas de va-et-vient au moment de la création.
Et l'œuvre chez vous, Françoise Petrovitch, naît toujours d'une pensée fugitive. Il n'y a pas un message particulier ou une envie de discuter ou de faire impression sur un thème particulier?
Alors ça dépend. Il y a des projets qui sont longs, qui sont avec des protocoles, qui sont réalisés dans un temps d'une année, de deux années. Il y a des projets qui sont réalisés aussi à partir d'œuvres anciennes ou d'artistes déjà qui existent. Donc il y a comme une réponse. Il y a quelque chose d'un dialogue. Et puis il y a l'ensemble du travail qui va se déployer d'une manière beaucoup plus, je dirais, sans. J'ai perdu la première question.
C'était la pensée fugitive.
Ah oui, la pensée fugitive, elle est tout le temps là. Donc de toute façon, elle s'immisce dans le travail, mais il n'y a pas de manifeste. Je ne travaille pas autour d'une pensée militante et manifeste. Je pense que les choses surgissent. Ça me préoccupe, mais c'est pas lisible tout de suite.
C'est drôle de dire la pensée fugitive est tout le temps là, puisque c'est paradoxal pour une pensée fugitive de rester auprès de vous, Françoise Petrovitch.
Ben si, ça bouge. Je suis un peu trop en mouvement, peut-être. C'est un peu trop brouillon.
La pensée se déplace et vous l'attrapez à chaque fois.
Ouais.
Ou c'est elle qui vous attrape?
Les deux.
Comment est venue l'envie, le désir de peindre, de dessiner, de créer, Françoise Petrovitch?
Alors, j'ai toujours dessiné. J'ai peint un peu plus tard, mais ça a été une évidence, c'est-à-dire que j'ai toujours voulu être, je disais, enfant dessinatrice. Je connaissais pas le mot artiste, donc je disais dessinatrice. Et puis ensuite, ça ne m'a jamais quittée, c'est-à-dire que j'ai jamais eu d'autres envies, d'autres besoins. J'ai tenu cet élan, voilà, et je le tiens avec grand plaisir encore.
Est-ce qu'il y a eu un moment où vous vous êtes dit « c'est mon métier » ?
Alors un métier, je ne sais pas si c'est vraiment un métier, parce que moi j'ai fait le métier de prof, donc ça c'est un métier. Artiste, je dirais pas, je n'ai pas envie de le professionnaliser comme ça, je ne parlerai pas d'un métier, je parlerai de...
D'un état.
État, voilà, exactement.
Vous êtes exposée au MoCo à Montpellier. C'est une grande exposition qui ne se déroule pas de manière chronologique. Comment est-ce que vous avez pensé l'espace? C'est un espace qui est très vaste. Je crois que c'est l'espace le plus vaste que vous ayez occupé depuis vos débuts. Comment est-ce que vous avez pensé l'espace et le temps dans cette exposition?
Alors oui, c'est un grand espace qui commence par des pièces un peu domestiques. C'est un ancien hôtel particulier. Puis ensuite, il y a des grands plateaux. Il y a trois grands plateaux comme ça et on descend plateau par plateau pour arriver à la fin, au bout de l'exposition. Et j'ai eu envie assez vite de mélanger des œuvres d'aujourd'hui qui n'ont jamais été montrées. Et puis des œuvres très anciennes qui étaient très peu montrées d'ailleurs parce qu'elles étaient dans mon atelier depuis 30 ans. Ou même jamais montré parce que je n'avais pas de visibilité à ce moment-là et donc elles sont restées dans mon atelier. Et il y a une espèce de, c'est comme des petits télescopages de temps. Il peut y avoir des séries d'aujourd'hui, et puis des pièces anciennes qui finalement nous montrent que les choses étaient déjà là, que tout était déjà là dans la façon de traiter le sujet isolé, le fond sans contexte, la fragilité des êtres qui sont présentés, l'intérêt pour la jeunesse, l'intérêt pour l'éducation, pour la condition, pour le féminin aussi. Donc finalement, tout était là, mais finalement, je n'avais ni conscience, ni perspective, c'était en train de se faire.
Mais quelle impression ça produit sur une artiste de se retourner comme ça sur toutes ces années de travail?
Ben, c'est une chance, finalement. On a c'est ce que je me suis dit, tiens, en montant l'expo, je me suis dit qu'on avait une chance de pouvoir, plasticien, avoir au même moment, en même temps, des œuvres qui ont 30 ans d'écart. Ce qui n'est pas possible en littérature, en musique, on peut pas écouter en même temps, en cinéma, etc. Donc nous, on a une espèce de simultané du regard, et on voit un temps comme ça, très raccourci, enfin, très long, qui est en même temps. Donc ça, c'est assez, ça donne un grand, ça me permet un esprit de synthèse, ça permet aussi de se faire plaisir, de jouer avec, de redonner du sens aux choses et d'amener les gens peut-être à mieux comprendre, à mieux saisir un parcours.
Et vous-même à mieux aussi vous comprendre, c'est une forme d'introspection.
Il y a forcément un peu de ça, oui, bien sûr.
Est-ce que vous avez travaillé la vidéo? Aussi, oui. Dans cette exposition. Comment s'est passé ce travail, cette salle dans laquelle on est vraiment immergé dans des couleurs, dans des formes? Comment vous avez fait, Françoise Petrovitch?
Alors, là, toutes les vidéos, je les réalise avec Hervé Plumet, mon compagnon. Et c'est la 7e que nous faisons. Et là, on avait envie, dans cet espace du MoCo, qui est aussi un espace de centre d'art, c'est-à-dire de création, hein, puisque on a eu envie de déployer la vidéo Papillon, qui est une vidéo qui a été réalisée sur des panneaux de verre. Vous voyez, comme un petit théâtre, un peu. Donc, tous les dessins qui ont servi à la vidéo, ils n'existent plus. Ils ont été effacés. Mais Hervé, on a filmé comme ça, avec des flous, des contre-champs. Enfin bon, il y a quelque chose de très cinématographique, un tout petit peu plus, et j'ai eu envie de finalement rejouer cet espace de fabrication avec des comme un petit théâtre de verre, de le rejouer dans l'espace très grand. Donc il y a cinq grands écrans de toile, enfin de voile, vous voyez, qui bougent avec des ventilateurs, et on est plongé dans un, comme on descend, vous voyez, on descend comme ça par des escaliers, on arrive dans la salle en descendant, et on est plongé tout d'un coup, comme si on était un peu sous l'eau, dans une lumière un peu violette, tout est nimbé de violet, et on découvre la vidéo d'une manière parcellaire. Donc il y a quelque chose un peu confus, un peu qui nous envahit, qui nous... On se retourne, on a une autre image, c'est-à-dire qu'on est un tout petit peu perdu, c'est-à-dire qu'on perd un peu nos sens, et surtout ça permet aussi le déplacement du corps, c'est-à-dire que les personnes se déplacent dans cet espace dessiné. Donc c'est vraiment un espace qui est dessiné et qui va jusqu'à, j'ai réalisé un grand dessin sur le mur, qui nous permet aussi de ne plus connaître les parois, de ne plus connaître les supports du dessin.
Là, on est un peu déboussolé. En fait, vous avez volontairement brouillé ou prodigué une impression de flou, Françoise Petrovitch.
Oui, et puis la question de cette vidéo, c'est Papillon, c'est une métamorphose. Donc, il y a aussi cette idée comme ça d'aller d'un point à un autre et ne pas, avec des choses un peu râpeuses, des choses un peu dures. Et cette inquiétude, elle est aussi, je dirais, rejouée avec la mise en scène.
Toujours la métamorphose aussi, le changement avec quelque chose de, d'inquiétant et en même temps d'enveloppant. C'est intéressant cette notion de flou, Françoise Petrovitch, dans cette salle, puisque vous aimez bien aussi, tout à l'heure vous avez employé, je crois, le mot télescopage. Vous aimez bien les heurts ou les petites collisions en mettant des formats différents,
bien
etc.
Sûr, bien
donc,
sûr.
Là, ça change d'ambiance.
Bah, disons que c'est à chaque fois, vraiment dans l'exposition, on l'a vraiment imaginé comme dans ces trois grands plateaux, il y a trois moments, c'est-à-dire il y a trois états. Et ça, c'est assez génial de se permettre ça, c'est-à-dire de se dire, on va, par exemple, le dernier plateau, c'est une confrontation, la sculpture est installée que dans le dernier plateau, et elle cohabite avec des peintures toutes récentes qui s'appellent Santin. Comme sans teinte, c'est-à-dire très, très acidulé, très pâle. Ce sont des peintures qui sont presque spectrales, qui n'existent pas vraiment. Et donc, ces silhouettes noires du bronze, elles découpent comme ça l'espace de la peinture. Je voulais vraiment, faire mettre ensemble un matériau très dur, qui est la sculpture, donc céramique ou bronze, et puis en même temps une peinture qui va être beaucoup plus près du mur, qui va être beaucoup plus évanescent, qui va être beaucoup plus intrigant aussi. Donc voilà, donc c'est vraiment des accrochages, quoi. C'est vraiment un travail sur l'accrochage.
Il y a un côté aquatique dans cette conception de la peinture, Françoise Petrovitch, avec les états glace, liquide, gazeux, vapeur, c'est
exact.
Intéressant.
Mmh. Je parle même d'humidité dans la grande série des dessins, parce qu'il y a des barres qui a l'eau, il y a l'eau des larmes qui coule, les cheveux qui sont mouillés.
Il y a des lavis aussi.
Ouais. La technique, elle est très liquide.
Françoise Petrovitch, je propose que nous écoutions la romancière franco-canadienne Nancy Houston évoquer le silence et le rôle de l'art selon elle.
La littérature apporte un peu de silence. Ça apporte un sas. Beaucoup de gens autour de moi, des amis qui sont artistes ou écrivains ou écrivaines, disent qu'ils sont déprimés et ont beaucoup de mal maintenant à croire que leur travail sert à quelque chose. Et moi, je me cramponne. Il y a beaucoup de gens qui l'ont dit de façon forte et je me cramponne à un certain nombre de citations. Je vais évoquer celle de James Baldwin, qui pour moi est un des très, très grands écrivains du XXe siècle. Il disait, il faut maintenir constamment présente à l'esprit deux idées qui semblent contradictoires. La première, c'est qu'il y aura toujours de l'injustice et de l'oppression et des violences choquantes dans notre monde. La deuxième, c'est que ça vaudra toujours la peine de lutter contre ça. Et écrire ou peindre ou apporter de la danse, de la beauté, ce n'est pas seulement un droit qu'on peut avoir face à l'horreur, je crois que c'est un devoir. Paradoxalement, il y a une interaction entre les deux. C'est peut-être ça qui est le plus difficile à admettre. C'est que si les choses allaient bien, en fait, dans le monde, il n'y aurait probablement pas besoin d'art.
C'était dans Affaires culturelles, présenté par Antoine Léris sur France Culture en 2023, donc Nancy Houston, qui s'exprime sur le rôle de l'art. Vous avez souvent dit que votre art n'était pas politique, Françoise Petrovitch, vous l'avez redit d'ailleurs en tout début d'échange. Est-ce que vous êtes tout de même d'accord avec Nancy Houston sur le fait que si les choses allaient bien dans ce monde, on n'aurait pas besoin de faire de l'art ou pas du tout?
Je connais Nancy, elle a écrit d'ailleurs un texte, oui, sur mon travail qui s'appelle L'Après, justement, où elle parle du silence. Elle dit que ma peinture ne lui évoque aucun bruit. Et je comprends, je suis d'accord avec ce qu'elle dit, évidemment, mais après, il n'y a pas d'injonction. Je pense que, et puis parfois, je pense aussi que ne pas manifester ouvertement, très fortement, très lisible, j'ai envie de dire, en premier regard, le politique, nous permet parfois de... C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses politiques, mais elles sont plus intimes, c'est-à-dire qu'elles vont toucher par l'intimité. Et du coup, je pense que ça peut, par porosité, rentrer dans les gens, mais ne pas passer par l'intellect. Je ne sais pas si je suis très claire, mais c'est des choses qui sont plus en deçà, c'est-à-dire qui sont plus en retenue. Et quand Nancy parle de la beauté, la question du merveilleux, je suis complètement d'accord. C'est-à-dire qu'il y a une dimension d'être ailleurs, c'est-à-dire de donner des possibilités d'être dans la beauté.
mais pas la peine d'être démonstratif sur un message politique.
Pour moi, non. Après, ça peut être très, très bien et c'est essentiel aussi. Je pense qu'il y a plein de voies possibles.
Parfois, on a l'impression que vos personnages, Françoise Petrovitch, évoluent dans un univers post-apocalyptique où l'air est difficile à respirer ou mauvais à respirer. La violence est également présente dans certaines œuvres. Parfois, c'est un pistolet brandi par un enfant, une petite fille qui a l'air de manger un oiseau, une image de champignon nucléaire. Vers quoi est-ce que vous tendez, Françoise Petrovitch, quand vous représentez la noirceur du monde dans vos œuvres?
Je crois qu'elle est là, hein, la noirceur du monde. Aujourd'hui, on est en plein dedans. Donc, je pense qu'on ne peut pas être en dehors du monde. Nous, artistes, on est traversés par ça et ça traverse les images, forcément.
Il y a une vision de consolation, une nécessité de conjuration?
Peut-être. Vous avez raison. Le mot consolation, conjuration peut être assez juste.
Et assez souvent, vos personnages ne nous regardent pas, Françoise Petrovitch. Ils ont le regard ailleurs, ils ont les yeux baissés, ils ont les yeux parfois cachés. Pourquoi ?
C'est une façon de dire un peu l'intériorité. C'est-à-dire, c'est aussi... ne pas regarder un regard... ne pas voir un regard sur une peinture, c'est finalement ne pas chercher un dialogue entre celui qu'on regarde et nous, mais plutôt regarder la peinture, c'est-à-dire la matière, la couleur, se retrouver dans l'essence même de la picturalité.
Il y a une forme de pudeur aussi chez ces personnages?
Il y en a, ouais, je crois.
C'est un reflet peut-être d'une pudeur qui est présente aussi chez vous. Vous peignez, mais vous n'avez pas envie qu'on sache
tout. Oui, il n'y a pas de déballage, ça c'est sûr.
Que représentent les animaux pour vous, Françoise Petrovitch? Ils sont nombreux dans vos œuvres, ils sont différents. Parfois ils sont coupés, parfois ils sont parcellaires. Mmh. Il y a une sculpture demi-mammouth, par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous d'amener les animaux et les...
Le demi-mammouth, c'était vraiment... J'ai pas fait la tête du mammouth. D'ailleurs, je n'ai fait que le cul, quoi, du mammouth. Et j'ai coupé la sculpture. C'est-à-dire, j'ai vraiment coupé. Et ça tranche. C'est-à-dire, c'était aussi cette idée la sculpture nous permet de trancher. Vous voyez, en dessin, en peinture, on cadre. C'est comme en photographie. C'est-à-dire qu'on cadre, on décide qu'il y aura un hors-champ. On décide que là, le trait va s'arrêter et on va imaginer ce qui va être au-delà. En sculpture, il n'y a pas de hors-champ puisqu'on saisit tout. Vous avez la pièce, la forme. Et donc, quand c'était une façon de redire, dans le demi-mammouth, de redire le hors-champ, c'est-à-dire de couper, moi aussi. Et c'est plus radical en sculpture, parce que c'est physiquement, on coupe. Donc, il y a un truc assez dur, c'est-à-dire qu'on coupe.
Mais dans votre esprit, il n'est pas enterré, ce demi-mammouth? Il n'y a pas sa tête sous terre?
Ah non, pas du tout. Il n'est pas du tout enterré. Il y a juste un moitié, quoi.
On pourrait penser qu'il est enterré.
J'avais fait un demi-chien aussi. Voilà, c'est des demi... C'est une façon... C'est un peu surréaliste aussi de dire il y a une demi-proposition. Il y a une proposition, elle n'est pas entière. Qu'est-ce que vous fabriquez? Qu'est-ce que vous voyez? Alors vous le voyez enterré, moi jamais j'ai pensé ça.
Moi j'ai bon espoir qu'il ait mis sa tête et qu'il nous revienne en entier. Vous travaillez dans un atelier maison, vous avez dit cette expression dans une interview. Et vous avez expliqué que vous n'avez pas de réseau, pas d'internet. C'est important pour vous de vous tenir à l'écart des nouvelles du monde, de les tenir à distance de vous?
Alors, dans ma maison, évidemment que j'ai internet, mais c'est dans les ateliers. J'ai pas voulu... J'ai pas besoin d'avoir internet parce que j'ai besoin que le temps soit plus suspendu. Et finalement, ce temps un peu arrêté me permet aussi de le distendre, de le modeler à la façon que j'ai besoin pour la création.
Vous vous intéressez beaucoup à l'enfance et à l'adolescence. J'avais envie de donner la parole à Timothée de Fombelle, auteur pour la jeunesse, qui parle de cette période comme d'un escargot.
D'accord.
Pourquoi je m'adresse à l'enfance beaucoup, peut-être aussi pourquoi j'en parle, mais surtout pourquoi je m'adresse à elle, parce que c'est là que tout arrive, c'est là que tout commence. Et quelqu'un m'a parlé, je crois que c'est Agnès de Sartre qui présente le temps et la mémoire comme un escargot, avec cette proximité donc des couches. Disons qu'on est dans le centre de l'escargot, ou non, mais on en serait plutôt à l'extérieur, je me rends compte, de l'escargot, en grandissant. La proximité, on s'éloigne très légèrement, en fait, de cette enfance.
Timothée de Fombelle, dans les Midis de Culture, il échangeait avec Géraldine Mosna-Savoie et Nicolas Herbault. Il y a un an, au mois de juin, est-ce que vous aussi, vous voyez le temps comme un escargot, Françoise Petrovitch, avec la mémoire de l'adolescence, de l'enfance, dont on s'éloigne en vieillissant, en grandissant?
J'ai jamais pensé à un escargot. Le temps, je le vois plutôt comme une ligne. Hein. Je le vois pas du tout comme une spirale. Je vois plutôt comme une ligne, un truc très chronologique comme ça, et puis il est scandé. Alors et finalement, il va devenir plus flou, il va se réinventer, et puis on refait vivre la mémoire comme on a envie. Donc
c'est une ligne.
Pour moi, c'est un dessin, c'est une ligne.
Vous cherchez pas à retourner vers l'enfance?
Ah non.
Ni
ah
la.
Non. En tout bah cas, non, pas j'avance. La. Vôtre. Non, ce que je cherche à être demain. Moi, je suis plutôt dans mes projets qui vont venir et pas du tout dans une nostalgie ou une. Non.
Aucune mélancolie, aucun regard dans le rétroviseur.
Je crois pas.
Françoise Petrovitch, vous avez réalisé une œuvre présentée au MoCo qui s'appelle Conseil à un apprenti. C'était en 1997. Vous m'avez dit que c'était à partir d'un texte. Cette œuvre, elle mêle collage, dessin, elle évoque le passage de l'enfance à l'âge adulte. Pourquoi ce moment précis?
Alors là, c'était un moment où je travaillais beaucoup à partir d'imprimés, de cahiers que je trouvais. Donc ça, j'avais trouvé un petit cahier, ça s'appelait « Conseil à un apprenti ». Alors c'était tous les conseils, range bien ton armoire, ne parle pas pour rien dire, ne perds pas du temps, un bon ouvrier, range bien ses outils, etc. Et je suis partie des préceptes pour chaque fois réaliser, c'est un panneau qui a 8 toiles, et j'ai dessiné au crayon de couleur sur toile, donc j'avais envie d'avoir justement un matériau presque scolaire, vous savez, le crayon de couleur qui fait très enfant, enfin voilà. Et j'ai dessiné, je me suis un peu remis à la place de ces apprentis, et j'ai aussi mis un petit bout du réel dans chaque image. C'est-à-dire qu'il y a par exemple un lacet de chaussures, puisqu'on parle du vêtement, j'ai un petit lacet de chaussures, parce que l'enfance, j'ai l'impression qu'on est... Un lacet de chaussures, c'est très important, par exemple, parce qu'on est au ras du sol, et puis tout devient... Par exemple, apprendre à lacer ses chaussures, c'est important. Donc, il y avait un truc comme ça, de se resserrer sur des toutes petites choses. Il y a une petite rognure de crayon. Vous voyez, il y a des petites étiquettes de vêtements. Enfin bon, j'étais vraiment dans un truc... Et le son de ce cahier, parce que les phrases, elles sont quand même... elles sont particulières. Hein. C'est dans les années 40, donc 30-40, donc c'était vraiment... Wow, c'est un peu particulier quand même. Et je les fais lire. Là, il y a une bande sonore qui accompagne la pièce. Et donc, il y a une lecture un peu serrée comme ça, un petit peu sèche. Et on énumère tous ces conseils, tous ces préceptes qui sont complètement désuets maintenant. Ça nous permet aussi d'avoir la distance quand qui dit quoi, à quel moment. Et voilà, et ça nous enveloppe en même temps que l'image.
Est-ce qu'on apprend des enfants, Françoise Petrovitch? Vous me disiez tout à l'heure que vous étiez intéressée aux lacets parce que les enfants regardent leurs lacets, contrairement à nous. Est-ce qu'ils ont une façon de voir le monde qui peut nous réapprendre à le voir, nous aussi?
Je ne sais pas si ça peut nous apprendre à... Je ne pense pas que ça peut réapprendre à voir le monde. Je pense juste que ça peut nous arrêter et nous... Voilà, c'est comme si vous regardez... un paysage nouveau, ben vous allez apprendre parce qu'il est nouveau. Enfin, il y a quelque chose qui se décale de nous, donc on apprend de l'autre toujours. C'est des rencontres, mais après revoir le monde avec des yeux d'enfant, j'y crois pas vraiment. Quand on a grandi, c'est pas possible.
Et on peut pas faire l'escargot et retourner en arrière ou rentrer dans sa coquille.
Non, j'y crois pas. Enfin, bon, je suis pas capable.
Et vous avez enseigné, vous m'avez dit au début de l'entretien, Françoise Petrovitch, vous avez fait cette œuvre Conseil à un apprenti. Pardon, qu'est-ce que la transmission vous apporte?
La transmission, ça m'a beaucoup apporté, parce que c'était une façon aussi de formuler des questions essentielles. C'est-à-dire, je trouvais que dans le rapport que j'avais, les questionnements de mes étudiants étaient vraiment sur les premières impressions par rapport à la peinture, le dessin. Donc, il y avait un côté très pur, très, comment ça se passe, comment je peux représenter ça, comment je peux observer. Donc toutes ces questions, finalement, c'est des questions qui m'ont habité à un moment donné, qui m'ont touché. Et j'ai l'impression que quand on est après plongé dans le milieu, etc., dans un truc beaucoup plus actif et réseauté, finalement, on perd un petit peu l'essence de ça, et j'ai aimé, finalement. Et puis, ça m'a appris aussi à être extrêmement tolérant sur l'œuvre des autres, parce que à une question posée, que je pouvais poser plastiquement, j'avais 20 réponses. Et ces 20 réponses, finalement, avaient une légitimité, avaient une force, avaient un intérêt que j'aurais pas pu imaginer. J'ai beaucoup aimé, finalement, apprendre aussi, voir cette liberté.
Dialoguer avec l'œuvre des autres, dites-vous, Françoise Petrovitch, c'est ce que vous faites aussi au musée Marmottan-Monet. Toute autre exposition très différente de celle du MoCo, puisque vous dialoguez par œuvre interposée avec Berthe Morisot. C'est vous qui l'avez choisie, Françoise Petrovitch. Pourquoi ?
Alors, j'ai choisi Berthe Morisot parce que le musée Marmottan-Monet est connu par son chef-d'œuvre Impression Soleil, Le Vent de Monet. Et on m'a invité pour un dialogue. Donc le dialogue, beaucoup d'artistes avaient précédemment, je suis la neuvième, donc il y avait beaucoup d'artistes qui avaient choisi Monet comme œuvre, un peu figure titulaire. Et je me suis dit non, moi je préfère choisir Berthe Morisot qui est un petit peu plus à côté, alors qu'elle a le musée Marmottan a le fond le plus important de Berthe Morisot quand même. Et puis c'était aussi une façon de parler d'une œuvre d'une femme et de choisir un tableau qui était Rose Trémière, qui est une toile un peu très peu connue, enfin un peu à côté comme ça, pas complètement cadrée, un peu non finie presque. Donc j'aimais bien avoir cette approche comme ça.
Et comment est-ce que vous répondez vous à ces Rose Trémière ?
Alors moi je me suis dit tiens oui, alors je vais répondre. C'est une peinture, j'ai répondu par des dessins, des très grands dessins. Et j'ai un peu fait comme si je tournais la tête et que, après, au-delà de ce jardin, il y avait un champ de tournesol. Donc ce sont des grands tournesols qui sont un peu comme des portraits fleurs, puisque c'est à chaque fois une fleur. Et c'est un peu comme un théâtre de marionnettes, puisque la salle est... C'est aussi une salle où on descend finalement pour aller à la salle, c'est rigolo, comme ça il y a des escaliers. Et c'est une salle très fermée, sans lumière du jour, donc je voulais quelque chose de presque théâtral.
Et on voit à travers ces tournesols, en quelques mots, Françoise Petrovitch, aussi quelque chose de l'ordre de la vanité, c'est-à-dire qu'on les voit se développer et puis mourir. C'est important pour vous ?
Il y a un flétrissement, il y a quelque chose d'inéductable comme ça qui va pourrir dans la fleur. Donc il y a cette question de la mort, c'est sûr. Et en même temps, on est dans un univers extrêmement coloré, très vif, très, très puissant. Enfin, au niveau de la couleur.
Donc à la fois Memento Mori et Carpe Diem, Françoise Petrovitch. Merci d'avoir été avec moi pour cette première partie des Midis de Culture. Françoise Petrovitch, je rappelle qu'on peut voir la grande exposition sur un os au MoCo à Montpellier jusqu'au 2 novembre 2025 et l'exposition Morisot Petrovitch Soleil, les dialogues inattendus au musée Marmottan-Monet, c'est jusqu'au 14 septembre. On se quitte en écoutant la version française de Galore et Hockey Loup avec Pomme et on se retrouve en deuxième partie d'émission avec l'artiste plasticienne Aline Bouvy.
Que je dis se perd dans le silence, dans les espaces et le flou. Nos cœurs se sont trouvés dans les absences ou dans la gueule du loup. Tous les soirs de fin d'été, les étoiles se jouent de nous. Comptez sans bruit les choses que l'on laisse pour ne pas devenir fou. Mes yeux sont des remparts qui te blessent. Je ne veux plus rien voir du tout. Tous les soirs de fin d'été, les étoiles se jouent de nous.
Et me voici de retour dans les midis de culture en compagnie de l'artiste plasticienne belgo-luxembourgeoise Aline Bouvy. L'exposition est son médium, son terrain de jeu. Elle propose des sculptures étonnantes, amusantes et souvent déstabilisantes. Elle joue avec l'espace autant qu'avec l'irrévérence, le politique et nos cultures contemporaines. Elle représentera le Luxembourg à la prochaine Biennale d'art de Venise en 2026. Bonjour Aline Bouvy.
Bonjour.
On peut voir en ce moment votre exposition Hot Flashies au Casino Forum d'Art Contemporain à Luxembourg en coproduction avec le Kunstweiren de Salzbourg sous le commissariat de Stilbe Schroeder jusqu'au 12 octobre 2025. Aline Bouvy, vous n'avez pas été élevée dans le monde de l'art. Vous avez raconté que vos deux grands-mères vous en ont ouvert, chacune à sa façon, la porte, l'une en vous faisant faire des costumes fabriqués et l'autre en vous emmenant avec elle sur les lieux où elle faisait des ménages et des lieux qui vous ont inspiré. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui se passe à ce moment-là dans votre imaginaire, Aline Bouvy ?
Eh bien, on va dire que mes parents m'ont eu très jeune et chez nous à la maison, on n'avait pas de livres, on n'allait pas au musée le samedi. Et par contre, j'avais deux grand-mères assez fantasques, dont la maman de mon père qui aimait beaucoup bricoler. Et donc, on passait beaucoup de temps. Elle me déguisait, on faisait de la peinture sur soie, mais sur du coton. Et ma grand-mère espagnole, donc la maman de ma mère, elle, par contre, elle était femme d'ouvrage dans les beaux quartiers de Tervuren, en banlieue bruxelloise. Et donc, j'arrivais avec elle dans des maisons, dans des appartements dont je n'avais pas du tout conscience que cela pouvait exister. Et des lieux où il y avait des œuvres d'art, au mur, des sculptures, donc des endroits différents. Donc j'ai pris connaissance qu'autre chose existait aussi. Peut-être que c'est ça qui m'a formée par ailleurs et qui m'a donné envie de faire des études artistiques, je ne sais pas.
Et puis vous découvrez l'artiste Bruce Naumann, Aline Bouvy, c'est là que vous avez aussi un déclic, vous vous dites « c'est ça que je veux faire de ma vie, qu'est-ce qui vous a tant plu chez lui ?»
C'est-à-dire que c'était un petit peu particulier parce que j'avais rencontré un jeune homme dont j'étais très amoureuse et il me disait qu'il faisait de la sculpture et il était fou de Bruce Naumann et moi à l'époque je pensais que la sculpture c'était un maillet tapé dans du marbre et donc je n'osais pas dire que je ne connaissais pas et je courais dans la bibliothèque de l'école pour avoir les catalogues et donc là je découvre le travail de Bruce Naumann et de bien d'autres artistes et en fait le langage de l'art contemporain donc de nouveau c'est un monde qui s'ouvre, quelque chose que j'ignorais complètement, et l'apparition d'un nouveau langage dans lequel tout me semblait possible. Et donc là, voilà, l'envie est montée et je n'ai plus voulu que faire ça.
L'ouverture de nouveaux possibles, c'est vraiment réjouissant. Oui. On va écouter Bruce Naumann justement raconter sa propre entrée dans l'art contemporain.
Je n'ai pas commencé à essayer de devenir artiste avant d'avoir déjà passé quelques années à l'université. Et je n'ai jamais compris pourquoi j'ai décidé à ce moment-là que je pouvais le faire. Mais je l'ai fait. Ou peut-être ai-je réalisé que je n'avais pas la même passion pour les mathématiques et la physique que mes amis qui faisaient les mêmes études. Et j'ai vu cela dans l'art. Et pour une raison quelconque, j'ai changé d'orientation. J'avais besoin d'une approche différente pour devenir artiste. Je passe beaucoup de temps à regarder et à réfléchir, puis à essayer de trouver la manière la plus efficace d'obtenir ce que je veux. Que ce soit en dessin, en sculpture, en moulage de plâtre ou autre. Et je n'ai pas d'étape précise à suivre, parce que je ne commence jamais de la même façon. C'est ça qui me garde dans l'atelier. Le fait d'être toujours surpris. Il y a donc une certaine joie là-dedans. Quand tout fonctionne un peu et que tu dis « Ah !» ça rend les choses acceptables. C'est à ça que je réfléchis dans mon travail. M'assurer que ce que je fais est vraiment clair. Et ensuite, c'est accessible. C'est ce genre de choses que l'on recherche. On les cherche dans l'art, et ça change la structure de la façon dont on peut penser l'art. Et c'est là pour toi. Ce sont des choses merveilleuses quand tu es en leur présence. Voilà ce que nous cherchons.
C'était Bruce Nauman en 2001 pour Art 21 sur PBS. Aline Bouvy, la surprise, la joie dont il parle et qui rend les choses acceptables. C'est aussi ce que vous, vous cherchez dans l'art, Aline Bouvy.
Oui, tout à fait. Et j'aime beaucoup la manière aussi dont il parle des différents médiums. Et pour moi, on va dire que c'est aussi dans l'art contemporain... Le questionnement qui pouvait rentrer à l'œuvre dans la recherche, par exemple, et dans les associations d'idées entre les différentes choses, un champ où tout cela pouvait rentrer en compte. Ça aurait pu se passer en théorie, peut-être, mais en tout cas, d'avoir quelque chose... On peut être chercheuse en étant artiste et aussi avoir le côté visuel, matériel qui rentre en jeu. Et tout ça fait un ensemble qui pour moi constitue et continue à constituer une découverte et une recherche tout au long de des années qui passent.
Et c'est là qu'arrive la joie, Aline Bouvy.
La joie, oui, mais aussi parfois c'est dur aussi.
Et parfois c'est dur. Est-ce que vous pouvez nous faire entrer dans cette exposition Hot Flashes, oui. Aline Bouvy, et nous expliquer comment vous l'avez pensée et comment vous l'avez construite?
Oui, donc c'était un petit peu particulier par cette exposition. C'était un petit peu comme un retour à la maison vu que le Grand-Duché de Luxembourg et Luxembourg-Ville étaient là. La ville où j'ai grandi. Et le casino, je le connaissais depuis longtemps, mais je n'avais pas encore eu l'occasion d'y présenter mon travail ou en exposition de groupe, en tout cas. Et comme je venais de terminer l'exposition Le Prix du Ticket à Marseille, donc il parlait quand même aussi beaucoup de l'enfance, etc., ce fil rouge de l'enfance est resté. Peut-être avec un regard plus personnel, et moi ayant aussi bien sûr vie depuis. Et donc on va dire que c'est un petit peu plusieurs choses qui se sont mélangées, donc c'est-à-dire la figure de l'enfant comme faire valoir par exemple, ou une espèce de manipulation de l'image de l'enfant. Ensuite aussi l'enfant comme ce qui m'intéresse, c'est par exemple aussi comment on pense pour les enfants. Donc, des parcs d'attractions, dans l'exposition de près du quai, je suis partie plutôt vers une recherche sur la construction des aires de jeu, qui sont aussi finalement des architectures faites par des adultes pour des personnes qui ne sont pas adultes, donc pour quelqu'un d'autre. Et comment toute cette idéologie, se met en place. De là, donc j'ai aussi construit une espèce de château fort aires de jeu, mais avec des modules, ce qu'on trouve le plus classique, le plus habituel, le symbole de l'hégémonie mondiale quasi, donc c'est le meuble méthode IKEA, donc que j'ai transformé. Et alors aussi la possibilité de peut-être pouvoir se poser des questions en tant qu'audience, qu'audience elle-même, c'est-à-dire en séparant l'espace d'exposition par un mur miroir. Donc d'un côté c'est un miroir, mais de l'autre côté c'est un miroir sans teint, pardon. Et en fait, on a deux parcours tout à fait différents selon l'entrée qu'on choisit pour entrer dans l'exposition. Ce qui nous permet de nous voir complètement déformés et de voir les autres personnes de l'autre côté. Et aussi de se dérober quelque part au regard des autres pour pouvoir les observer, donc ce côté de voyeur.
Oui. Et pourquoi ce titre, Hot Flashes? Alors, oui, quel sens sûr, il a pour vous, Aline Bouvy?
Oui, donc je parlais de l'enfance, et Hot Flashes peut sembler comme, ça pourrait être un souvenir percutant, qui revient, qu'on retravaille, mais bien sûr aussi, Hot Flashes, c'est la traduction anglaise du terme bouffée de chaleur, donc, comme je disais, moi aussi, j'ai vieilli. Et ce que je trouvais assez intéressant au comics, c'était de faire quand même un rapport par rapport à ça, par rapport à la femme ménopausée ou en périménopause, à cette à ce processus d'invisibilisation qui est entamé par la société quand même encore pas mal patriarcale à partir de ce moment-là. Et en fait, j'ai mis ça un petit peu en relation avec la redécouverte du film E.T. Donc, c'est-à-dire que comme je cherchais beaucoup de matériel pour habiller l'exposition que j'allais chercher dans des marchés opus, etc. Donc, trouver des jouets pour enfants, des choses qui auraient pu me servir pour mon installation. Je suis retombée sur l'album Panini d'E.T. Donc les albums Panini, c'était des albums où on pouvait après acheter les petits autocollants pour venir compléter. Et je l'avais parce que E.T. était un film qui m'a énormément marquée dans mon enfance. Et je l'ai acheté et puis il traînait comme ça sur la table de mon atelier. Et j'y revenais tout le temps. Et en fait, voilà, soudainement, tout est revenu, ou en tout cas, les choses ont commencé à apparaître d'une autre manière. C'est-à-dire que la première page, on a la présentation des personnages. C'est Elliot, son frère, sa sœur, sa mère. Il n'y a pas de père. Et je me disais, mais c'est peut-être le premier film que j'ai vu où la figure du père était absente. Enfin, ce n'est pas la famille nucléaire, c'est autre chose. Et c'est peut-être aussi cet espace manquant qui permet l'apparition soudaine d'E.T. Et que E.T. est peut-être plus qu'un film d'extraterrestre, un film sur l'acceptation de l'autre, hein, vu qu'il y a Elliot qui se bat aussi tout le temps pour qu'il ne soit pas vu, pour le garder pour lui. Enfin, et alors parce que dans l'exposition, je parle d'E.T. parce que dans l'exposition, j'ai fait effectivement une sculpture qui est un morphing et qui est en miroir. Donc chaque E.T. est placé d'un côté de ce mur miroir, ce miroir sans teint, et est un petit peu un morphing entre mon corps d'aujourd'hui et celui d'E.T. Et je me dis, bah, tant qu'à être une femme ménopausée, autant trouver une forme d'être dans cette société qui se dérobe aussi à ce système. C'est-à-dire, pourquoi pas ne pas devenir une forme d'alien. Oui, voilà, une forme d'alien. Et donc, par exemple, la semaine dernière, j'étais voir Mars Attacks au cinéma, et j'aime beaucoup la manière dont Tim Burton traite les extraterrestres, qui, en fait, n'ont aucune forme de loyauté. Chaque fois, ils disent, on vient en paix, et au final, ils sortent quand même leur revolver intergalactique et tuent tout le monde. Donc, c'est un petit peu la figure de l'alien traître. Aussi, parce que là où il y a traîtrise, il y a aussi une espèce de, enfin, il y a un contrat qui se termine, il y a quelque chose de, il y a autre chose qui se met en place, qui casse les lois quelque part, qui casse les normes, et ça me plaît bien.
Vous êtes sur le fil, Aline Bouvy, entre l'espièglerie, l'humour, mais parfois aussi une forme d'inquiétude, de peur ou de malaise qui s'exprime dans votre pratique artistique. Qu'est-ce que vous ressentez, vous, quand vous créez, Aline Bouvy ?
Alors, ce que je ressens, comme je vous disais, c'est un petit peu... moi, j'adore être dans cette phase de recherche où je vais commencer à rassembler les éléments et des éléments souvent qui n'ont à première vue aucun rapport les uns avec les autres, et donc c'est beaucoup de tâtonnements et beaucoup de doutes, et par magie, comme l'explique un petit peu peut-être Bruce Nauman, c'est les choses se mettent ensemble, enfin les relations commencent à fuser même parfois, et donc ça c'est... Oui, parfois quand on sent qu'il y a quelque chose qui se met en place, c'est fort comme sentiment, c'est fort, c'est presque quelque chose aussi qui met en danger comme ça, ou enfin je sais pas, c'est très, ça n'arrive pas souvent, hein. Mais quand ça arrive, en tout cas, voilà, j'y travaille. Oui, il y a quelque chose de magique, mais ça ne vient pas tout seul, bien sûr, hein, c'est tout un travail.
Eh bien, merci pour cette magie, Aline Bouvy. Merci d'avoir été avec moi pour cette deuxième partie des Midi de Culture. Je rappelle qu'on peut voir l'exposition Hot Flashes au Casino Forum d'Art Contemporain à Luxembourg jusqu'au 12 octobre 2025, et vous représenterez le Luxembourg à la Biennale d'Art de Venise en 2026. Cette émission a été préparée par Zoé Coupé, Léa Weichgruss, Lisa Dejeune, Nina Gandara et Inès Bouffartig-Sébastia. À la réalisation aujourd'hui, Vivian Lecuivre, et à la technique, Olivier Arnet.